bienvenue dans l'heure noire de West Track Radio. Où que vous soyez, à toute heure du jour comme de la nuit, Max O'Bion va vous embarquer dans ses histoires noires. Parfois gris-rose, parfois sensible, parfois déjanté, avec des pointes d'humour. Noir comme il se doit. Vos oreilles sont-elles prêtes? Oui? Alors envoyez.
Mise en abîme. Une nouvelle de Max O'Bion. Lue par Serge Cazenave. Résumé, c'est un paysage mental. Le vieil homme me rendit le cliché qu'il venait d'examiner durant de longues minutes en faisant ses commentaires. Je n'étais pas plus avancé et pensais que cela me faisait une belle jambe de le savoir. Parce que l'enquête piétinait, j'avais décidé de rencontrer Nazer Fedjo dans sa maison de Binic. Un article de West France du mois dernier m'avait mis sur la piste de mon ancien prof de sémiologie à Vincennes. Ça remontait au beau temps des lendemains de 68, durant cette période flottante, lorsque je n'avais pas encore opté pour la flicaillerie, reniant comme tant d'autres mes idéaux de transformation sociale pour devenir un gardien des lois bourgeoises. Parjure aux serments qui sortaient de nos poitrines lors de l'enterrement de Pierre Auvernet. Nazer Fedjo aussi avait abandonné l'enseignement en liberté pour créer l'agence Office, spécialisée dans le people crapoteux. Dans la voiture de service qui me ramenait à Saint-Brieuc, je fermais les yeux et me repassais mentalement la rencontre. « Guy Lopardi, vous dites ?»« Non, je ne me rappelle pas, mais vous savez, la mémoire fout le camp à plus de 80 ans. Entrez donc, il y a bien longtemps qu'un de mes étudiants m'a rendu visite. »« Alors comme ça, vous êtes policier ?»« Divisionnaire, eh bien, vous avez bien réussi, comme quoi Vincennes pouvait mener à tout. » Je ne relevais pas la pointe de malice et lui fis part de l'objet de mon déplacement. On s'installa dans la courette derrière sa maison donnant sur le port. Le soleil était bon à l'abri du vent. Un jasmin embaumé masquant par intermittence la puanteur des algues vertes en décomposition sur les grèves. Il prit le banc et me pria de m'asseoir sur une chaise en face de lui. « Alors, voyons ça. » me dit-il en prenant la photo de mes mains. « Vous connaissez le lieu ?»« Oui, on y a retrouvé le cadavre complètement nu d'une femme. » Il regardait le document avec beaucoup de pénétration. Une compagnie de mouettes troubla le silence. « Vous ne connaîtriez pas l'auteur de cette photo par hasard, ni la date de sa prise ?»« Oui, ça m'aiderait peut-être, oui. Ça ne va pas être facile. Qu'est-ce que je pourrais vous en dire ?» Qu'est-ce qu'elle me dit? De quoi parle-t-elle, cette grande bâtisse plantée au milieu d'herbes folles? Des éléments de balcon et de couverture dénotent la grande villa folie que les bourgeois fortunés se sont fait construire au cours du XXe siècle notamment. On devine la mer, une plage sur la gauche. On sent la présence d'une digue, une promenade en bordure de mer. L'état d'abandon est évident, la clôture inexistante, ouvrant la propriété à toutes les intrusions imaginables. Ce qui est bien rendu dans cette belle profondeur de champ, ce sont les herbes hautes du premier plan, que le vent, la pluie et les passages couchent au sol. Ce premier plan est fort. C'est une porte, un débris de porte de garage coulissante. Je reconnais les oculistes si caractéristiques de ce type de menuiserie stéréotypée. La porte s'inscrit ici dans la symbolique duale, ouverture, fermeture, paradis ou enfer. On imagine que cette porte était celle du garage de la villa dévastée qu'on voit en arrière-plan, envahie de marginaux et de gamins du village, de couples, d'ados et de personnes. Effectivement, cette villa a servi de squat. C'est un premier plan qui occupe la plus grande place dans l'image. Le second plan est consacré entièrement à la villa. Elle n'est pas placée au centre du cadre dans cette partie supérieure. Non, le photographe a légèrement décalé son sujet vers la droite. Cela crée une rupture, un déséquilibre de symétrie, exprime une désolation, engendre un certain malaise. Paradoxalement, la villa abandonnée ne paraît pas isolée dans la lande ou sur une falaise comme un archétype de maison hantée, mystérieuse ou mortifère. Elle est, me semble-t-il, l'archétype de la villa de famille qui a résonné du rire des enfants l'été. Puis les enfants grandissent, à leur tour, se marient. Ils ont d'autres centres d'intérêt. Les parents ont des revers de fortune ou disparaissent. Vendre la villa. Il y a toujours un héritier qui s'y oppose, bloquant la transaction. Alors l'immeuble se dégrade, coule vers son abandon. De temps en temps, des enfants ou des petits-enfants reviennent dans le lieu parce qu'ils y ont connu leurs premiers émois, qu'ils y ont vécu des moments d'insouciance. Recherche parmi les estivants ou les habitants des autres villas d'anciennes connaissances, d'anciens flirts d'été. Vous connaissez le nom du ou des propriétaires? Aussi surprenant que cela puisse paraître, j'ai dû répondre par la négative. Pas très fier, le divisionnaire Nazer Fedjo me regarda. Son œil pétillait d'ironie. C'était un point sur lequel j'allais devoir relancer un enquêteur. La piste familiale n'avait pas été explorée et pouvait se révéler fructueuse, qui sait? Dans le noir, on ne fait pas la fine bouche sur le moindre bout de chandelle qu'on vous tend. Tandis que Nazer Fedjo continuait de décrire l'image en détail, interprétant les angles et les ouvertures, tissant une atmosphère, je m'interrogeais sur le point de savoir si je devais lui révéler l'endroit précis où cette photo avait été découverte. En effet, le cliché avait été trouvé dans le corps de la victime. Le professeur Billot avait tenu à m'annoncer personnellement ce scoop en jouant à la devinette. « Devine ce que j'ai trouvé, mon vieux Guy. Une vraie histoire de con. » Il riait toujours lorsqu'il eut terminé sa révélation. Il en avait vu des vertes et des pas mûrs dans sa carrière de légiste. Mais jamais encore une photo fichée dans le vagin d'une victime. Les services de Le Guerne m'en avaient fait une repro à la dimension de l'original. La photo de dimension 13 cm par 19, roulotée, portait à l'intérieur des traces de coke. Les empreintes révélées appartenaient à la victime. Aucune trace d'ADN n'avait été découverte, autre que les siennes. La coke, on en avait retrouvé également sur les parois nasales et dans les poumons de la fille. À 6 mois de la quille, j'avais sur le dos une affaire, enfin une affaire de celle qui motive. Et elle me tombait sur le paletot maintenant. Je l'avais attendue, cette affaire. L'affaire d'une vie de flic de province. Quelle aubaine de retrouver le terrain après des années de papasserie et de tracasserie statistique. Tout ça à cause de la culture du résultat que n'arrêtait pas de nous seriner l'intermittent de la place Beauvau, histoire de booster sa trajectoire politique. Parce que l'équipe d'enquêteurs ramait sans résultat depuis 4 mois, j'avais décidé de m'attaquer à cette énigme. Il fallait tirer ma révérence en beauté. Bon Dieu, chaque jour comptait désormais. C'était l'odeur qui avait attiré l'attention de 2 gamins du pays. Ils déconnaient dans la propriété ouverte à tout vent. Le cadavre gisait sous la porte du garage, au milieu du terrain en friche. L'assassin l'avait-il traîné jusqu'à cet endroit? Où est-ce que cette chouette môme avait bien pu être étranglée? Dans la villa? Elle était de type européen. mesurait 1,62 m, de corpulence moyenne. Ses cheveux blonds me rappelèrent, à m'en faire mal, ceux de Vic, ma fille, que je n'avais plus vue depuis 15 ans. Les poussières avaient été soigneusement prélevées sur sa peau, sur les lambeaux de sa peau. Après analyse, aucune de celles-ci ne provenait de la villa. Alors, la fille avait-elle été déshabillée sur place, amenée nue, morte ou encore vivante? Ce dont on s'était assuré, c'était la strangulation. Les marques sur le cou étaient encore visibles malgré l'état de putréfaction avancée du corps. Les radios de la zone cervicale écartèrent tous les doutes possibles. D'après le rapport médico-légal, l'assassin avait utilisé une lanière ou une cordée pour entraîner pareil dégât. Il avait recouru à la technique du garrotage, jadis en vogue dans les geôles franquistes. Durant 4 mois, il fut impossible d'identifier le corps. Apparemment, c'était une sniffeuse, pas une adepte de la shooteuse. À part cette certitude, pas grand-chose à se mettre sous la dent. On diffusa un portrait reconstitué à partir des photos du cadavre, retouché par l'informatique. Aucun retour ni signalement exploitable. Le fichier des disparitions resta muet également. Notre taux d'élucidation des crimes était l'un des meilleurs de l'Hexagone. Des crimes de pulsion perpétrés par des minables, des histoires d'inceste, rarement un crime complexe comme ce qu'à présent. Plus les jours passaient, plus je voyais arriver le jour où le commissaire divisionnaire Guy Lopardi allait faire chou blanc et qu'il allait devoir quitter la carrière, la culotte à la main. C'est la photo que son corps enfermait qui m'intriguait. Pourquoi dans cette partie intime? Le criminel nous livrait-il un indice? Nous mettait-il sur la piste d'un crime sexuel? Nous donnait-il une direction ou bien était-ce un leurre? Un mec malade, assurément, mais allez savoir. La photo avait-elle été prise avant le meurtre ou bien après? Oui, avant, c'est plausible. Non, après. Bref, en résumé, j'étais dans le brouillard.
Elle se prend les deux rails du Paris-Brest avec la photo qu'elle a roulée en tuyau pour se transférer la coupe dans le pif. Puis elle se fait une gâterie avec le petit God sur les entrefaites des boules l'étrangleur qui lui fait sa fête. C'est pas compliqué, plutôt fastoche, non?
Regarde donc ta route, Rachid. Mon chauffeur me charriait. Notre complicité était vieille. Il pouvait se le permettre. On échangeait souvent nos réflexions. L'assassin a très bien pu utiliser des gants pour manipuler le tuyau, comme tu dis.
Ah, si vous raffinez, alors je peux pas vous aider, commissaire.
Je regardais défiler la campagne bretonne dans cette belle lumière de mai. Il m'a quand même donné un brin de la pelote, ce vieux prof.
Si vous avez le bout, vous allez tirer dessus. Je vous connais, commissaire.
Je vais demander au lieutenant Le Crash d'établir l'arbre généalogique des propriétaires de cette putain de bicoque. De me cuisiner tous les contemporains de cette famille, disons ceux dont la date de naissance donne une chance d'être encore actuellement en vie.
Si c'est une famille d'yeux de poil à la mode de chez vous, bonjour le taf. C'est votre gros lot, ça.
Effectivement, la sonnerie de mon portable s'énervait. Mes respects, monsieur le procureur, oui, je suis sur le chemin du retour. Ça urge. Entendu, monsieur le procureur. Rachid, y a du Bins. Gyrophare, sirène, on fonce! Rachid déposa la lanterne magique sur le toit et écrasa la pédale d'accélérateur. Et il se la joua taxi, littéralement. Paysage mental. Mon cul, oui. Thank you. L'épave calcinée de la voiture témoignait de la violence inouïe du choc. On sut que le semi-remorque transportant des porcs avait brûlé le stop et était venu broyer les deux fonctionnaires de police à l'intérieur de leur véhicule. Une odeur de grillade flotta longtemps dans les prés bordant la route. Le lendemain, Ouest France titra sur la disparition brutale d'un grand flic, victime de la violence routière intolérable, alors qu'il enquêtait. Charlie Hebdo donna une brève intitulée « Des porcs sauvagement agressés par un flic pyrocochon ». Puis, après les obsèques, la vie reprit son cours morne. L'enquête fut confiée au capitaine Yves Nédot. Celui-ci jura sur le cercueil du boss qu'il donnerait une suite à cette histoire. Las, 2 ans plus tard, la morte de la villa abandonnée n'est toujours pas identifiée. La vérité est une longue patience.
La nouvelle que vous venez d'écouter est disponible sur toutes les librairies en ligne. À très bientôt pour partager ensemble l'heure noire de Max Aubiol.